Chapitre 11. Ramdas. Il y avait parfois de beaux couchers de soleil, même dans le square, bien qu'on n'en pût apercevoir qu'une partie entre les cheminées, au-delà des toits. Des fenêtres de la cuisine, il était impossible de rien en voir, mais on les devinait, à l'heure où les briques s'inondaient de clarté, où l'air s'emplissait de reflets dorés et lumineux, tandis que, au loin, une vitre flamboyait. Il existait cependant un endroit d'où on pouvait admirer toute leur splendeur. Nuages couleur de flamme à l'ouest, ou pourpre bordé d'un trait d'or éblouissant, nuages légers, floconneux, teintés de rose, qui ressemblaient à des vols de colombes rosées se hâtant à travers l'azur aussitôt que soufflait le vent. L'endroit d'où on pouvait voir toute cette féerie et en même temps respirer un air plus pur, c'était la lucarne de la mansarde. Quand le square commençait soudain à resplendir, en dépit de ses arbres noirs de suie, Sarah savait que quelque chose se passait dans le ciel. Et si elle pouvait à ce moment quitter son travail, elle montait vite à sa mansarde et mettait la tête à la lucarne. Muette d'admiration, elle contemplait tout autour d'elle. Il lui semblait que le ciel et la terre lui appartenaient. Les autres lucarnes étaient généralement closes, mais même quand elles étaient ouvertes, personne n'y apparaissait. Et Sarah restait là, la tête levée vers le ciel bleu, qui lui semblait si proche et si ami. À d'autres moments, ses yeux se fixaient vers l'ouest et les merveilles qui s'y accomplissaient. Des nuages s'effilochaient, fondaient, fuyaient à la dérive, ou insensiblement se teintaient de pourpre, de cramoisi, de rose, de gris-perle. Parfois, ces nuages dessinaient des îles, de grandes montagnes, des lacs profonds et bleus, ou des promontoires s'enfonçant dans d'étranges mers sans bord. D'autres fois, d'étroites bandes unissaient des terres merveilleuses, sur lesquelles on aurait cru possible de courir, de grimper, de s'arrêter, pour voir finalement tout se fondre et pour disparaître soi-même dans le tourbillon. Telles étaient du moins les pensées de Sarah, et rien ne lui paraissait comparable à ce qu'elle admirait, debout sur sa table, la tête émergeant de la lucarne. Les moineaux lui semblaient gazouiller avec plus de douceur encore lorsque, au spectacle de ces merveilles, ils allaient s'endormir. Il y eut précisément un de ces magnifiques couchers de soleil quelques jours après l'arrivée du monsieur indien dans sa nouvelle maison. Et comme par bonheur ce jour-là, le travail de l'après-midi était achevé à la cuisine et que personne ne l'avait envoyé en course, Sarah put facilement s'esquiver pour grimper à sa mansarde. Elle sauta sur sa table et regarda au dehors. L'heure était idéale. Au couchant, des flots d'or à la ressemblance d'une marée féerique semblaient envahir le monde. « C'est magnifique !» murmura Sarah en extase. « Je suis presque saisie de crainte, comme dans l'attente d'un événement qui se prépare. J'ai toujours ce sentiment en présence d'un beau coucher de soleil. » À ce moment, son attention fut attirée par un bruit inhabituel et tout proche, mélange de voix et de cris bizarres. Et cela venait de la lucarne voisine. Elle n'était plus seule à admirer le coucher du soleil. Une tête et des épaules émergeaient, en effet, qui n'appartenaient ni à une petite fille, ni à une servante, mais à un superbe indien, tout de blanc vêtu, la tête ceinte d'un turban également blanc et dont les yeux brillaient dans une figure bronzée. Un lascar, se dit Sarah. Il tenait tendrement dans ses bras un petit singe qui jacassait et se blottissait contre son épaule. Sarah et l'Indien échangèrent un coup d'œil. Ce qui la frappa tout d'abord en lui, ce fut l'expression profondément triste de sa physionomie. Il avait dû monter là pour regarder le soleil, qu'il avait eu si rarement l'occasion de voir depuis son arrivée en Angleterre. Elle le considéra donc avec intérêt pendant une seconde, puis lui adressa un sourire. Elle savait par elle-même le prix d'un sourire, même venant d'un inconnu. Il en fut certainement réconforté, car l'expression de son visage changea immédiatement, et, en lui rendant son sourire, il découvrit des dents si blanches que toute sa figure sombre en parut illuminée. Ce fut sans doute en saluant Sarah que l'Indien laissa le petit singe s'échapper. Celui-ci était un petit espiègle au caractère aventureux, et que la vue de cette petite fille encouragea. Il échappa à l'Indien, sauta sur le toit, le traversa en jacassant, bondit sur l'épaule de Sarah, et de là, dans la mansarde. Sarah était ravie et riait, mais elle savait qu'il faudrait le rendre à son maître, en admettant que le lascar le fût, et elle se demandait comment elle s'y prendrait. Se tournant vers l'Indien, elle fut assez heureuse de se souvenir de quelques mots d'hindoustani qu'elle avait appris quand elle habitait avec son père pour se faire comprendre de cet homme. « Va-t-il se laisser prendre par moi ? » demanda-t-elle. La surprise et le plaisir se peignirent sur la figure bronzée du lascar quand elle lui parla dans sa langue maternelle. Le fait est que le pauvre garçon s'imagina que ses dieux étaient intervenus et que cette voix si douce descendait du ciel. Sarah s'aperçut tout de suite qu'il était habitué aux enfants européens. Il se répandit en flots de remerciements respectueux. Puis elle expliqua que le singe était très gentil, qu'il ne mordait pas, mais que sans doute il ne se laisserait pas facilement attraper. Il était désobéissant, mais pas méchant. Ramdas le connaissait comme si c'était son enfant. Parfois, il obéissait à Ramdas, mais pas toujours. Si mademoiselle le permettait, Ramdas irait lui-même le prendre. En passant par le toit, il entrerait par la lucarne et rattraperait le petit coquin, si cependant Sarah ne le trouvait pas indiscret. Mais Sarah l'y autorisa aussitôt. « Pouvez-vous traverser le toit ? » demanda-t-elle. « En un instant, » répondit-il. « Alors venez. » Ramdas passa d'une lucarne dans l'autre par le toit, comme s'il n'avait jamais fait que cela de sa vie. Il se laissa glisser dans la mansarde de Sarah sans aucun bruit, puis se tournant vers Sarah, il la salua avec respect. Le singe, aussitôt qu'il l'aperçut, se mit à crier. Ramdas ferma la lucarne et se lança à la poursuite du petit animal, qui, après quelques tours, escalada l'épaule de Ramdas, où il s'assit tout en jacassant et en entourant le cou de l'Indien de son drôle de petit bras tout maigre. Ramdas remercia avec effusion Sarah. Elle avait remarqué qu'il s'était rendu compte, d'un seul coup d'œil, du dénuement de sa chambre. Mais il lui adressa la parole, comme il l'eût fait à la fille d'un Raja, sans paraître s'être aperçu de rien. Il se confondit en remerciements et expressions de son respect avant de quitter la pièce. « Le petit vilain, dit-il en caressant le singe, n'est pas en vérité aussi méchant qu'il le paraît, et son maître, qui est malade en ce moment, le trouve même parfois très amusant. La perte de son petit favori l'eut beaucoup attristé. » Puis, s'inclinant de nouveau, il sortit par la lucarne avec autant d'agilité que le singe en avait montré. Sarah, restée seule dans sa mansarde, songeait à tout ce que le visage et les manières de l'Indien avaient évoqué en elle. Son costume indigène et sa profonde déférence ravivaient tous ses souvenirs d'autrefois. Que cela lui semblait étrange. Le petit souillon à qui la cuisinière adressait des paroles blessantes était, peu d'années auparavant, entouré de gens qui la traitaient tous comme Ramdas venait de le faire, qui s'inclinaient respectueusement sur son passage, dont le front touchait presque la terre à chacune de ses paroles, qui étaient ses serviteurs et ses esclaves. Tout cela apparaissait comme un rêve qui s'était évanoui, et pour toujours. Car il semblait, certes, bien invraisemblable qu'aucun changement pût désormais se produire dans son existence. Elle ne savait que trop bien à quel avenir Miss Minchin la destinait. Tant qu'elle ne serait pas en âge d'être utilisée comme professeur, elle continuerait à faire les courses et à être aux ordres de tous. En même temps, il lui faudrait ne rien oublier de ce qu'elle avait appris, et d'une façon ou d'une autre, trouver le moyen d'acquérir de nouvelles connaissances. Elle devait consacrer la plus grande partie de ses soirées à l'étude, et de temps en temps, mais très irrégulièrement, on la questionnait pour s'assurer de ses progrès, sous peine de sévères réprimandes, si ses réponses n'avaient pas été satisfaisantes. En réalité, Miss Minchin n'ignorait pas que Sarah avait trop le désir de s'instruire pour avoir besoin de professeurs. Il suffirait de lui donner des livres pour qu'elle les dévorât et finît par les savoir par cœur. Encore quelques années et on pourrait compter sur elle pour faire un excellent professeur. On la ferait trimer dans la salle d'études, comme elle trimait maintenant dans d'autres parties de la maison. On serait bien obligé de lui donner des vêtements plus convenables, mais à coup sûr, il serait toujours sans élégance, afin qu'elle ressemblât toujours à une servante. Sarah n'avait donc devant elle aucun espoir d'amélioration de sa vie présente. Tout absorbée dans ses tristes pensées, elle resta immobile quelques instants. mais une pensée se présenta à son esprit, qui colora ses joues et illumina ses yeux. Elle redressa son jeune corps si mince et releva la tête. « Quoi qu'il arrive, se dit-elle, il y a une chose qu'on ne m'enlèvera pas. Je ne suis qu'une princesse en loques, soit, mais je veux l'être par le cœur, et non par les beaux habits dorés. J'y aurai beaucoup plus de mérite. » Quand Marie-Antoinette était en prison au temple, que son trône venait de s'écrouler, qu'elle n'était vêtue que d'une simple robe noire, que ses cheveux étaient devenus blancs, qu'elle était insultée et traitée de veuve capée, n'était-elle pas alors plus sereine qu'au moment où elle était le centre de toutes les fêtes, entourée de la pompe royale? C'est alors que je l'aime le mieux. Ses pensées n'étaient pas nouvelles pour Sarah, et l'avaient déjà soutenue aux heures difficiles. Sa physionomie prenait alors une expression que Miss Minchin n'arrivait pas à déchiffrer, et qui l'exaspérait. On pouvait croire que l'enfant vivait alors d'une vie intérieure, qui la mettait au-dessus de ses compagnes. Elle paraissait ne pas entendre les paroles désagréables et blessantes qui lui étaient adressées, et, en admettant qu'elle les entendît, n'en semblait pas émue. Il arrivait qu'au milieu d'un de ces discours prononcés d'une voix dure et autoritaire, Miss Minchin remarqua que les yeux de Sarah se fixaient sur elle, avec une expression sérieuse, accompagnée d'un sourire plein de fierté. Elle ignorait que Sarah se faisait à elle-même cette réflexion. « Vous ne vous doutez guère que c'est à une princesse que vous parlez, et que, si tel était mon bon plaisir, je pourrais d'un geste de ma main vous envoyer à l'échafaud. Si je vous épargne, c'est parce que précisément je suis une princesse, et que vous n'êtes qu'un pauvre être borné, méchant, vulgaire, et que vous n'en êtes pas responsable. » Quelque bizarre et quelque étrange que cela puisse paraître, elle puisait du réconfort dans ses imaginations qui la vengeaient de la grossièreté et de la méchanceté des autres, qui n'avaient plus aucune prise sur elle. « Une princesse doit être polie », se disait-elle. Lorsque les domestiques, suivant l'exemple de leur maîtresse, se montraient insolentes à son égard et la bousculaient, elle gardait son calme et leur opposait une politesse qui les désarçonnait. Elle a de bonnes manières, cette petite, disait la cuisinière, parfois en plaisantant. On dirait qu'elle a été élevée à la cour. Lorsque je me mets en colère contre elle, je dois avouer qu'elle me répond toujours poliment. Ce sont des « s'il vous plaît », des « voulez-vous être assez bonne », des « je vous demande pardon », des « me permettez-vous ». Et toutes ces formules tombent naturellement de sa bouche. Le matin du jour où elle avait fait la connaissance de Ramdas et de son singe, Sarah se trouvait dans la salle d'études, avec ses petites élèves. La leçon de français était terminée, elle rangeait les livres. Tout en accomplissant sa besogne, elle songeait aux mésaventures qui étaient survenues à des personnes royaux, alors qu'ils se cachaient sous un déguisement. Alfred le Grand, par exemple, pour avoir brûlé les gâteaux qu'il cuisait, reçut une claque de la main de la femme du maître. Quelle terreur rétrospective éprouva la pauvre femme quand elle découvrit qui elle avait souffleté. Si jamais Miss Minchin découvrait qu'elle, Sarah, dont les souliers étaient troués, était une vraie princesse. Oh, cette pensée, son regard prit cette expression que Miss Minchin détestait y voir. Or, Miss Minchin était précisément à ce moment-là auprès de Sarah. Ne pouvant se contenir, elle se précipita sur elle et la gifla. Exactement comme le roi Alfred l'avait été. Sarah tressaillit. Le coup l'avait tiré de son rêve. Elle resta interdite une seconde, puis, sans trop savoir ce qu'elle faisait, elle se mit à sourire. « Pourquoi riez-vous, petite impertinente, petite effrontée ?» s'écria Miss Minchin. Il fallut à Sarah quelques instants pour se dominer et se souvenir qu'elle était une princesse, car ses joues étaient rouges et brûlantes des claques qu'elle avait reçues. « Je réfléchissais, » répondit-elle. « Demandez-moi pardon immédiatement !» Sarah hésita une seconde. « Je vous demande pardon d'avoir ri, si c'est impoli, mais je ne vous demande pas pardon d'avoir réfléchi. »« À quoi réfléchissiez-vous? Comment osez-vous réfléchir ?» Jessie et Lavinia souriaient et se poussaient du coude, tandis que toutes les élèves levaient la tête attentive. Car chaque fois que Miss Minchin cherchait querelle à Sarah, elles y prenaient le plus vif intérêt. Celle-ci avait toujours des réparties inattendues, sans paraître effrayer le moins du monde, Cette fois encore, elle ne se départit pas de son calme, bien que ses oreilles fussent encore écarlates et ses yeux brillants comme deux étoiles. « Je pensais, répondit-elle avec dignité, mais poliment, que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. « Comment ? Je ne sais pas ce que je fais !» répéta Miss Minchin, suffoquée. « Je me demandais, ajouta Sarah, ce qui pourrait bien arriver au cas où vous apprendriez que je suis une princesse. Oseriez-vous alors me gifler, quoi que je puisse dire ou faire ? Et si vous l'aviez fait, quel serait votre effroi et votre confusion au moment où vous le découvririez ?» Et Sarah voyait si distinctement ce qu'elle imaginait que son attitude impressionna Miss Minchin elle-même. Cet esprit étroit et sans envergure crut discerner une force qui se cachait derrière cette naïve audace. « Quoi ? S'écria-t-elle. Si je découvrais quoi ? Que je suis une princesse et que je peux faire tout ce que je veux. Tout ce que je veux. » Les élèves écarquillaient les yeux. Lavinia se penchait en avant pour mieux voir. « Montez dans votre chambre immédiatement !» ordonna Miss Minchin, furieuse. « Sortez d'ici ! Apprenez vos leçons, mademoiselle !» Sarah salua. « Excusez-moi encore d'avoir ri si c'était impoli, » dit-elle. Et Sarah sortit de la pièce, laissant Miss Minchin en proie à sa colère et les élèves chuchotant derrière leurs livres. « L'avez-vous vu ? » dit Jessie. « Quel grand ! Je ne serais pas du tout étonnée si on découvrait un jour qu'elle est quelqu'un. »